Aujourd'hui, en fait, on a décidé de discuter et de vous présenter en fait le phénomène low-code/no-code. C'est à peu près à propos puisque en fait c'est une vraie révolution hein, qui est en train d'arriver et qui est déjà arrivée notamment dans certains pays, notamment anglo-saxons. Aujourd'hui, en France, on en parle encore, enfin on en parle évidemment, mais peut-être pas avec toute la mesure et toute la toutes les comment dire la considération qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces futurs ou ces technos qui nous permettent aujourd'hui d'accélérer largement les développements et surtout accélérer et simplifier toute la partie construction, on va dire, d'applicatifs pour répondre à vos besoins, etc. Et donc Luc, il va nous présenter justement exactement comment ça fonctionne, les distinctions entre le low-code et le no-code. On associe généralement les deux, mais il y a quand même des distinctions, hein. C'est pas qu'une seule et même définition. Donc, on va revenir vraiment sur le contexte, les définitions. Et puis aussi, on a la chance donc d'avoir Bénédicte Pilla qui, en fait, a travaillé justement avec Luc sur des cas d'usage et qui va justement pouvoir nous donner ce retour et cette perception vis-à-vis de l'entreprise qui utilise, qui exploite au quotidien et dans ses processus voilà, des outils développés en low code, no code. Et encore, je ne sais pas si on peut utiliser le développer en low code, no code. Je ne sais pas si ça marche. Bref, donc je vous laisse la parole, Luc et Bénédicte, et encore un grand merci donc pour cette présentation à venir.
Bon, merci Pierre-Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Limite DX, je te laisse commencer par te présenter, parce que nous fait plaisir de nous accompagner sur ce café webinaire. À toi l'honneur.
Et je démarre. Donc, Bénédicte Pilla, moi, je suis la coprésidente du groupe Auremastre. Auremastre, nous, on est un groupe indépendant, multispécialiste en maintenance, bureau d'études, travaux neufs industriels, chaudronnerie, tuyauterie et déménagement et transfert d'usine. Notre métier, globalement, nous, c'est d'assembler nos expertises techniques dans tous ces métiers pour accompagner nos clients dans l'évolution de leur outil de production. En quelques chiffres, on existe depuis presque 40 ans maintenant, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 220 collaborateurs. On a 5 implantations en Rhône-Alpes et on a globalement visité une vingtaine de pays sur les 3 dernières années, puisque nos activités, notamment de travaux ou de déménagement d'usines, nous emmènent un peu partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi je suis là ce matin? Donc, effectivement, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer comment ça marche, le no-code. C'est lui qui va expliquer beaucoup mieux que moi. L'idée, c'était vraiment, je suis plutôt là à titre de grand témoin, entre guillemets, pour vous dire, d'un point de vue opérationnel, dans une structure comme la mienne, à savoir une grosse PME, qu'est-ce qu'on en a fait et qu'est-ce que ça nous a apporté.
Voilà, parfait. Ben écoute, merci beaucoup de ton accompagnement ce matin. Donc en deux mots sur TooSmart, nous notre job c'est justement d'appréhender les besoins, les usages des entreprises et des équipes métiers, puisque notre job c'est de créer des applications pour les équipes métiers qui sont personnalisées et qui sont surtout connectées aux outils en place. Et après, bon, on a choisi un modèle un peu innovant. Un, on utilise les technos innovantes du no-code, low-code dont on va parler ce matin. Deux, on est orienté uniquement sur le côté process et l'usage. On ne fait que de la co-construction, d'où l'importance de la présence de Bénédicte ce matin. Et on a un business model qui est en pur abonnement, qui nécessite du coup aucun investissement, puisque tout est intégré dans l'abonnement directement. Ce matin, on a un créneau assez court, donc balayé pas mal de sujets. Premier, c'était redonner un petit peu le côté contexte global. De pourquoi le no-code, low-code, ça explique aussi pourquoi le no-code, low-code se développe rapidement, tout ce qui est solutions et services disponibles, évidemment tout ce qui est bénéfices et points de vigilance, et on finira par des cas d'usage, parce que c'est quand même le sujet qui parle le mieux, c'est de voir concrètement qu'est-ce qu'on en fait et comment ça marche. Donc c'est un petit peu l'ordre du jour de la demi-heure qui nous attend. Pour rentrer et continuer les quelques chiffres sur les 53 ans de la DIRA et sur les autres que Bénédicte avait listés, aujourd'hui, les tendances du marché, de façon assez simple, si j'arrive à vous dérouler, c'est que l'informatique et tout le côté transformation digitale, à peu près dans toutes les bouches, depuis maintenant quelques décennies, et que le Covid qu'on a connu l'a évidemment largement accéléré. Mais par contre, nous, on attache une grosse importance au fait de dissocier informatiser et digitaliser. C'est-à-dire que tout est devenu digital. On a beaucoup de millefeuilles d'outils dans les boîtes où il y a beaucoup d'informatique, mais ce n'est pas digitalisé. C'est-à-dire que ça ne correspond pas pile poil, en double pot, en quelque sorte, au savoir-faire des entreprises. Et en quelques chiffres qui vont expliquer l'essor de ces nouvelles techno, parce que c'est une nouvelle techno, il y a 0,3% de la population mondiale qui savent coder aujourd'hui. On a à peu près augmenté le besoin en développeurs de 60% sur les 10 dernières années, rien que les 10 dernières années, sachant qu'il y avait déjà eu un énorme boom avant, mais bon, le métier était déjà établi il y a 10 ans. Et selon Gartner, une stat qui est rabâchée un peu en boucle, c'est 500 millions d'applis qui vont être créés d'ici 3 ans, avec 70% qui utiliseront le no-code, low-code. Donc ça, c'est des points un petit peu impactants. Et en 2 ans seulement, ce marché du no-code a bondi de plus de 65%, alors qu'il avait bondi que de 30% l'année d'avant. Donc on voit qu'il y a vraiment une augmentation, une explosion sur ces technos, d'où l'importance d'en parler ce matin ensemble. Le point qui a accéléré aussi l'appétence, c'est la capacité des technos à répondre aux problématiques. Et ces technos, elles ont été largement picousées, puisqu'on compte des levées de fonds dans tous les sens. On en est à peu près à plus de 20 milliards dans le monde sur ces technos. Donc forcément, avec ces mannes financières, ça libère quand même pas mal d'espace et pas mal de capacité de développement. Donc voilà, en deux mots, je pense que tout le monde est un peu au courant du concept du no-code, low-code. En deux mots, le principe, c'est d'arriver à automatiser un processus ou créer des applications dédiées sans taper de ligne de code. C'est-à-dire qu'on va s'affranchir de toute la complexité d'un système de programmation en utilisant des outils, un peu des modèles graphiques qui vont nous permettre de développer et donc de coder. Pierre-Antoine, comme on le disait il y a un instant, on parle bien de codage. Et si pour finir juste sur le côté stats, si le marché mondial est en explosion sur ces technos, c'est qu'il y a plusieurs raisons. C'est bon, les progrès informatiques ont permis de rendre plus accessible la programmation. C'est-à-dire que sur le papier, tout le monde, en tout cas beaucoup plus de personnes, ont accès à ces développements de micro-applications. On ne parle pas d'envoyer une navette sur la Lune, ni de faire rouler les voitures en autonome, ni de faire des développements ultra spécifiques qui nécessiteront toujours le côté ingénieur, développeur et compagnie. Par contre, ces technos-là permettent de répondre à toute la problématique métier qui, pour le coup, ne nécessite pas le même niveau de compétence. On a accessoirement, et je pense que tous les participants sont concernés par le sujet, un marché du travail légèrement tendu, légèrement, avec une...
Moi, je confirme.
À recruter. Alors déjà, on a du mal à recruter, mais en plus, les salaires ne font qu'exploser. Donc, je pense que tu nous en parleras aussi tout à l'heure, Bénédicte. Et du coup, ces technos qui offrent du coup, une ouverture plus large permet d'avoir un essor beaucoup plus important. Et ce qui fait que on parle souvent d'une collision de deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui maintenant l'ensemble de l'entreprise qui est intéressée en capacité de comprendre le process et du coup d'y participer. Et l'équipe informatique qui, pour le coup, s'est inscrite dans l'intégralité des enjeux business de l'entreprise. Donc, on a vraiment tout le monde sur le même plan pour intervenir sur ces sujets. Et du coup, sur le côté ressources, si tu voulais en dire un mot.
Effectivement, c'est que alors, moi, là, tu donnes tout un tas de stats qui sont vraiment liés au marché informatique, hein, au sens large, quoi, du digital. Pour donner, et côté PME, on a les mêmes difficultés, c'est-à-dire que au niveau de nos organisations, nous, on a des problématiques pour trouver réellement toutes les ressources utiles sur la partie métier. Alors, ce sont des métiers de l'entreprise. Hein, donc, nous, on est une entreprise de terrain, hein, donc on va du chantier jusqu'au bureau. Et typiquement aussi, se pose la question. Donc, nous, aujourd'hui, on ne maîtrise pas, typiquement, en PME, nous, ces outils informatiques, et notamment ces nouveaux outils digitaux qui arrivent sur le marché. Moi, j'ai eu un DSI par le passé, j'en ai plus aujourd'hui, parce que suite à son départ en retraite, on a décidé de ne pas remplacer cette fonction. La DSI est assurée par notre DAF en partie, donc d'où l'intérêt d'avoir aussi des prestataires qui aujourd'hui sont en capacité à nous accompagner sur ces sujets. Mais effectivement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que avec toutes les quand nous on a mis en place notre ERP chez ORM il y a quelques années maintenant, on a totalement éloigné la fonction en plus le métier de ce projet. On a fonctionné très en interne, etc. Et c'est là vraiment la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui. Avec réellement, nous, on a plein d'outils qui se sont accumulés en termes d'outils Excel parallèles, puisqu'à partir du moment où on n'avait pas mis les fonctions métiers dans l'organisation du projet, on s'est tout simplement, tout le monde, c'est pour pallier au manque de ressources dans ces unités, dans ces services, tout le monde a développé plein d'outils supplémentaires pour pallier à tous les manquements du système central, entre guillemets, imposé par la direction ou par les cadres sup.
Et après, tu as aujourd'hui, si on prend l'angle RH pur, sur les dernières années, en fait, on a collectivement eu quand même des changements qui sont majeurs. C'est-à-dire qu'on a tous un smartphone dans les mains ou dans la poche. En tout cas, il n'est jamais très, très loin. Ce qui fait qu'on s'est tous digitalisés énormément. Du coup, comme on est digital jusqu'au bout des ongles, ben, on a des besoins quotidiens autour du digital. Et ce qui fait que ben, les DSI, à un moment donné, elles ne peuvent pas répondre à tous les besoins, à toutes les demandes. Donc, il y a une explosion des demandes. À un moment donné, les DSI ne peuvent pas exploser en nombre d'effectifs. Donc, il y a aussi besoin de prioriser. On a eu une évolution dans le management où on a ouvert beaucoup plus et travaillé beaucoup plus en collectif. Et les outils qui ont ouvert leur capacité à répondre aux problématiques plus larges ont permis justement d'intégrer les métiers dont tu parles dans le développement des outils. Parce que le fait que le métier soit intégré dans le projet, bah, c'est devenu indispensable. Et après, on a une problématique RH aussi dont on a parlé à l'introduction, c'est le manque de compétences techniques de développeurs et la tendance un petit peu diva de certains qui font que ben, c'est complexe d'honorer et d'avoir en interne les compétences techniques pour pouvoir développer à proprement parler.
Je fais juste un petit éclairage entreprise là-dessus, mais si je fais le parallèle, aujourd'hui, sur tous nos métiers, on a les mêmes difficultés, on a des difficultés de recrutement, c'est général en France, aujourd'hui tout le monde cherche du monde et personne ne les trouve. Avec aussi, nous on a constaté une accélération de tout ce qui était le turnover, on a une accélération aussi des attentes des collaborateurs d'avoir des outils qui soient performants, qui soient sexy, si on raisonne marque employeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on a des candidats qui nous interrogent aujourd'hui sur les outils en place pour les accompagner dans leur métier. C'est des questions qu'on n'avait pas avant. Il y a 20 ans, on nous interrogeait sur les avantages du CSE. Aujourd'hui, il y a peut-être les avantages du CSE, mais il y a aussi les outils digitaux à dispo. Et ça, c'est une vraie tendance, une vraie nouvelle tendance qui vraiment, je trouve, et le digital, moi, je fais le parallèle, parce que chez nous, le digital était quasiment pas utilisé. Donc, quand tous nos salariés, nous, on faisait certainement des personnes à la maison. Et nous, on était, il y a encore... Et aujourd'hui, tous les deux, quel que soit l'âge, nous, on a une moyenne d'âge chez nous qui est de 45 ans à peu près. Quand on interroge sur les entretiens d'évaluation annuelle, les collaborateurs, même chantier très à terrain, sur des questions très techniques, tout le monde aujourd'hui est en demande d'outils digitaux pour simplifier. Et ça, c'est vraiment une tendance nouvelle, quoi. Nous, on est quand même sur des métiers très, très manuels, hein, très techniques, hein. On n'est pas l'industrie 4.0, quoi.
Mais non, ça, on s'en rend compte justement sur l'explosion de la demande, quel que soit... les métiers des entreprises.
Et sur la partie, je te lance sur ce sujet-là, mais effectivement, et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, nous, sur la partie ERP, on s'est retrouvés, effectivement, à vouloir à un moment donné développer, mettre en place des outils informatiques, ou plus que digitaux, finalement, peut-être, d'ailleurs, si je reprends ta définition d'intro, où on a voulu absolument essayer... Bon, on s'est dit qu'il était très sexy, puisque avec des fonctionnalités très larges. Mais aujourd'hui, nous, typiquement, on a un ERP. On utilise à peu près 50% des fonctions à l'intérieur. C'est le bout du monde. Donc, finalement, de vouloir faire quelque chose à peu près. Et nous, en plus, on a poussé le bouchon à vouloir absolument d'un outil générique. Comme ça ne faisait pas 100% de satisfait, on a voulu faire du sur-mesure dessus. Voilà. Dans l'escalade de l'engagement, ce qui peut arriver sur ces projets, on a été assez magique.
Ouais, même ça, c'est souvent. Pour le coup, le principe de l'outil générique, qu'il soit spécialisé ou non, d'ailleurs, ce qui est grisant, c'est la liste des fonctionnalités. On se dit, on pourra faire tout ça. Et puis, au final, on utilise majoritairement quelques pourcents. Alors, tu es sur un gros pourcentage. Parfois, on est à 5-8% max qui sont utilisés les fonctionnalités. Ce qui fait qu'on a le sac à dos pour faire le Mont Blanc, mais on fait le tour du lac avec. Donc, ça provoque aussi d'autres contraintes. Et ces outils génériques, ils sont faits pour répondre à une problématique générale, mais ils sont faits pour répondre à aucune problématique spécifique.
Tu as raison, je me permets de t'interrompre, tu as raison sur le pourcentage, c'est qu'aujourd'hui, on n'utilise que 50% des fonctionnalités qu'on a souhaitées. Je ne parle pas effectivement de toutes les fonctionnalités théoriques de l'ERP d'origine.
Ah oui, oui.
C'est-à-dire que dans la manière dont on a déployé le projet, les limites, à un moment donné aussi de l'outil, quand même, on n'utilise que 50% de ce qu'on a demandé au départ.
Pour vous rassurer, Bénédicte, je crois que vous n'êtes pas la seule dans, l'auditoire.
Oui, j'ai vu. J'imagine.
Si on fait un point sur le côté low-code, no-code, c'était quand même le but ce matin, pour donner un petit peu des noms de plateformes qui parleront a priori à tout le monde, ce qu'il faut bien intégrer, ce que disait Pierre-Antoine au départ, c'est que, bon, comme toute nouvelle techno, moi j'ai connu les arrivées de PHP et d'autres, où à chaque fois, c'est va des rétras satanas, on n'en veut pas parce que mon Dieu, les autres sont mieux, parce que c'est du langage objet, parce que c'est toutes les bonnes raisons du monde. Puis au final, le PHP aujourd'hui, c'est un standard. Et ça a même des déclinaisons, Symfony et compagnie. On vivra exactement la même chose avec le no-code d'ici un an, deux ans, trois ans, puisque de par le besoin et de par la réponse et la problématique, nous, on a des ingés qui sont vraiment scotchés sur les capacités. On faisait encore un entretien cette semaine d'intégration où la personne dit « Putain, en fait, je pensais pas qu'on pouvait faire tout ça avec. » Et c'est vraiment canon. Donc, il y a aussi un blocage humain très français de résistance au changement, de dire non, je ne veux pas y aller parce que les autres sont mieux. Et puis, au final, quand on est dedans, on se rend compte qu'on fait plein de choses. On n'en est plus au besoin de répondre à des POC, juste faire la preuve du concept, entre guillemets. On est réellement sur de l'applicatif qui est durable. Aujourd'hui, les technos, elles ont entre 10-12 ans en historique. Si je vous cite Airtable, qui est un tableur d'une puissance de feu diabolique, il était créé en 2012, donc il est lui ultra puissant et largement avéré. Tout ce qui est outils d'automatisation, Zapier est le plus connu et le plus populaire. Nous, on est plus Make, qui est anciennement Integromat, parce qu'il est beaucoup plus puissant et permet de faire beaucoup de choses en termes de conditionnel et compagnie. Tout ce qui est Zoho, Creator, c'est 20 000 développeurs dans le monde. Pareil, je crois que ça a une quinzaine d'années. Bubble, Notion ou Coda, qui sont des plateformes de gestion de travail collaboratif qui vont combiner à la fois du bloc-notes, à la fois donc de tout ce qui est documents, tout ce qui est feuilles de calcul, et dans une puissance dingue parce qu'on peut tout automatiser dedans. On a toutes les GAFAM qui évidemment ont migré en no-code. Aujourd'hui, Microsoft pousse du Power App de partout et toute sa plateforme a migré en no-code. Tout ce qui est Google de la même façon et toutes les GAFAM sont concernées par la tendance. Pour une raison aussi, c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter. Hein, donc, ils ont les mêmes problématiques que vous tous. Miro, qui est un outil collaboratif très puissant qui a une douzaine d'années. Figma, pour les prototypes et modèles de maquettes. Vision, qui est une techno française spécialisée sur l'industrie en l'occurrence, avec lequel on développe beaucoup de plateformes et de process. On vous en citera des exemples tout à l'heure. Donc tout ça, c'est, je vous cite beaucoup de noms, mais c'est pour vous montrer que on a l'impression que c'est nouveau, mais en fait, ça l'est pas du tout. Ça a plus d'une, en France, au global mondial, plus d'une douzaine d'années, et en France déjà au moins 4 ans, avec des gros cas d'école. Nous aujourd'hui, on déploie des plateformes pour des grands logisticiens ou des grands transporteurs qui commencent par un S. Qui utilise, en fait, on agrège toutes les données que vous avez dans les gares de façon à pouvoir traiter la donnée. Donc, tous ces outils no-code vont beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus efficiente que de repartir de zéro à chaque fois. Le principe, c'est que ces technos sont développés avec l'avènement de tout ce qui est SaaS, donc tout ce qui est le côté cloud et la fibre de partout. Et en un chiffre très impactant qui parlera à tout le monde, c'est qu'on va globalement 3-4 fois plus vite, et donc globalement on économise 2 à 3 fois le budget. Entre les deux il y a la licence, donc très clairement il y a un intérêt intellectuel de parfaire ce qui existe 15 fois, un intérêt d'aller beaucoup plus vite, mais un intérêt économique aussi qui est plutôt assez sympatoche pour l'ensemble des budgets des SI. Et surtout un point aussi qu'on aborde peu, c'est que tout ce qui est dette technique et maintenance, en fait la pérennité repose à la fois sur le développement qui a été fait, mais à la fois sur la plateforme qui est derrière. Ce qui fait que chaque éditeur fait la maintenance de son outil. Donc, ça permet de réduire beaucoup aussi ce sujet-là en termes de maintenabilité, de pérennité des plateformes. Donc, ça, c'est un point qui est super important qu'on occulte souvent. Et pour vous faire une différenciation sur le côté low-code, no-code, les deux sont complémentaires, en fait. C'est une nouvelle façon de créer des applications. La différence entre les deux, c'est une question de prise en main. C'est-à-dire que sur le papier, tout le monde pourra faire du no-code, alors que plateforme low-code, il va falloir quand même quelques connaissances en programmation et en développement. Donc, c'est le principe. Après, sur le no-code, pour être très simple, moi, je peux faire toutes les applications du monde, sauf que je passerai 3 semaines quand l'équipe de dev passera 2 heures. Donc, il y a peut-être un problème d'habitude et d'expertise là-dessus. Évidemment, tout ce qui est ingénieur, développeur, iront beaucoup, beaucoup plus vite que celui qui n'est pas du tout du métier. Mais en tout cas, on peut plus facilement le maintenir, plus facilement le mettre à jour et plus facilement l'être autonome. C'est-à-dire que ce qu'on ne pouvait pas faire avec du développement spécifique, aujourd'hui, on peut faire développer une plateforme en no-code et réintégrer dans la DSI. C'est-à-dire que nous, ça nous arrive, pour le coup, de créer des applications et les réinternaliser dans les DSI des entreprises. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec Vision, par exemple, qui marche très, très bien et qui permet de pouvoir combiner le meilleur de deux mondes. Donc, voilà. Ça, c'est les points importants. Le gros point, surtout sur ces développements, c'est de... Et quand je parle de digitalisation en double pot, c'est le fait de venir coller aux usages internes et à l'organisation de l'entreprise et pas à changer ses habitudes pour coller dans un outil. Ça, c'est important, de s'adapter à chaque activité et de coller en fait aux spécificités de l'entreprise qui accessoirement font sa force et sa différenciation sur le marché. Donc ça, c'est vraiment un point clé impactant. Et le dernier sujet qu'on vous listait, que j'ai zappé d'aborder, c'est l'intégration des autres outils. C'est qu'avec ces technos, on a aussi une grosse capacité à connecter via les API, à transformer l'hétérogénéité de formats de données pour les réimporter de façon homogène et arriver à avoir un connecteur et une passerelle beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que ce qu'on peut faire en full dev. Donc voilà, pour le côté service disponible et vous donner du concret sur ces technos et vous prouver que il y a beaucoup, beaucoup d'applications qui tournent durablement sur ces technos low-code, no-code. Pour rentrer côté bénéfice aussi, si Bénédicte, dire un petit peu le bénéfice que vous en avez eu chez OREM par rapport à ce déploiement.
Je vais aller vraiment sur l'essence du bénéfice, puisque j'aurai l'occasion tout à l'heure de rentrer un petit peu plus dans le détail du projet. L'intérêt pour vraiment que j'ai vu moi, alors nous on démarrait constat post-Covid, nous on a vraiment pris conscience de notre retard en fait en matière digitale, comme beaucoup d'entreprises, mais et surtout des besoins. Et on s'est dit que vu le chantier qu'on avait devant nous, on s'est surtout dit que c'était intéressant de démarrer avec finalement des applications et en no-code pour deux raisons. Un, il y a la rapidité de déploiement de projet, mais ça j'imagine que tu en reparleras après Luc. Il y a la question aussi que, pour le coup, c'est les acteurs métiers qui sont à la tête, qui pilotent le projet, qui sont au centre du projet, du pilotage du projet. Donc, ce n'est plus la direction, ce n'est plus éventuellement un DSI s'il y en a un, puisque bon, nous, on n'en a plus chez nous, mais pour le coup, sans DSI, c'est aussi des outils qu'on a pu forcément développer sans difficulté. Et puis, il y a un vrai intérêt qui est de démarrer aussi finalement une transformation digitale dans une entreprise par des outils simples qui sont directement finalement au niveau du terrain et des opérationnels. Donc, qui sont finalement ceux qui font, qui vivent l'entreprise, qui font l'entreprise tous les jours et qui la mettent en mouvement en permanence. Et c'est ce que moi, je trouve vraiment le bénéfice principal, c'est qu'on se dit que grâce à ça, nous, on a attaqué le virage du digital par finalement tous ceux qui sont... Donc aujourd'hui, on a digitalisé finalement nos équipes. Donc, ils ont tous effectivement à la main maintenant un smartphone avec une application ORM dans laquelle on sait maintenant qu'on peut aller rajouter, que ce soit un nouvel applicatif, peu importe, hein, des fonctionnalités dans l'appli. Et aujourd'hui, ça on en parlera tout à l'heure, mais il y a vraiment ça, le fait de remettre les métiers, vraiment le métier au centre du projet, donc décharger les services support ou les services de direction qui normalement habituellement les pilotent, et puis les gains de temps et le déploiement du projet qui s'est fait en...
D'ailleurs, ouais, ça pour le coup, en fait, ce que pour redire différemment, c'est côté favoriser l'innovation aussi en interne. Ça, c'est un point qui est important. Ouais. C'est-à-dire que le but de ces technos, ça permet au DSI de pouvoir apporter des solutions et de l'efficience au métier et de supprimer le goulot d'étranglement qui est contraignant pour tout le monde, surtout pour eux d'ailleurs, parce que c'est des surcharges lourdes. Parce que quand on a des gens qui attendent derrière, on provoque aussi des risques. On parle de shadow IT, mais c'est un point réel. C'est-à-dire que de mettre en place une plateforme no-code, ça permet, entre guillemets, de faire patienter aussi les métiers et du coup de se concentrer que sur les choses qui doivent se déployer à l'intégralité de l'entreprise. Et ça permet en fait quelque part créer un jardin, en fait, dans lequel les métiers peuvent se déployer, peuvent continuer de bosser indépendamment. Et ça sécurise beaucoup le DSI de façon, en termes de sécurité et d'organisation, de dire, OK, ils sont là, ils sont en train de travailler dans cette application. Donc, au moins, je connais, j'ai pu cadrer le terrain de jeu. Donc, ça, c'est vachement important.
Puis, tu augmentes quand même aussi le ratio, quoi, la satisfaction au bout, quand même, quoi, le taux de satisfaction. À partir du moment où tu mets l'utilisateur au centre du sujet, ce qu'on a tendance parfois à oublier sur des gros déploiements d'outils digitaux ou informatiques, c'est quand même non négligeable, quoi.
Et surtout, en fait, dans le côté métier, ce qui est assez rigolo, hein, c'est qu'on se rend compte que bizarrement, ils deviennent vachement plus objectifs sur les demandes. Parce que comme c'est eux qui peuvent le faire, ils se rendent compte aussi de l'enjeu. C'est-à-dire que la méthode, ce qu'on appelle nous le T-cube, c'est le tout, tout le temps, tout de suite. Quand ils le demandent aussi, ben là, bizarrement, quand eux, ils ont la main, ils disent oui, mais en fait, bon, aussi, ils gagnent en. Je veux dire, en intelligence, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, en pertinence de demande. Et c'est beaucoup plus réaliste. Donc,
ça, je te le confie. Ça, vraiment, je le valide deux fois. Et avec moi, ce que j'ai aussi vu en déploiement de projet, c'est que les utilisateurs, que nous, ce sont notamment sur les équipes testeurs qui ont été les premiers à tester les applicatifs, on a eu des retours positifs. C'est-à-dire que d'habitude, quand on déploie un projet en entreprise, mais c'est pas uniquement informatique, hein, moi, ça fait 20 ans que je déploie des projets, etc., on a toujours le oui, mais, ouais, c'est bien, mais, voilà. Là, on avait tout le. Là, d'abord, on avait ah, ça, c'est super, ça, c'est génial, ça, c'est top. Ah, ça, et ça, on pourrait avoir le cran du dessus ou pas, mais on avait vraiment d'abord vraiment toute toute la liste des points qui les. Ouais, des points plus, quoi.
Ça, on a pu le faire parce qu'ils ont participé au projet.
Ah oui, complètement.
Parce que du coup, en fait, ces technos permettent d'être facilement modifiables, pendant que tu parlais aussi, et d'augmenter la productivité. Parce que comme on peut créer un rythme beaucoup plus important, ça veut dire qu'on soulage le côté SI d'un côté, et puis on répond aussi plus vite au métier. Donc, ça permet de réduire les coûts, parce qu'on a aussi moins de latence dans les projets et plus d'agilité. Donc, ça, c'est des points qui sont vraiment impactants sur les bénéfices de ces technos. Côté délai, on a parlé tout à l'heure, le côté Shadow IT, je voulais lister aussi. En termes d'usage pour les entreprises, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces technos s'adaptent très, très bien quasiment à toutes les tailles d'entreprise. Puisque tout ce qui est PME, ETI, ben, tu citais le cas de REM, grandissait largement de l'un vers l'autre. L'appropriation en interne est vachement pertinente et ça permet de pouvoir s'appuyer, travailler en partenariat, là avec TooSmart pour le coup, mais demain, pour récupérer la compétence en interne. Dans les grands groupes, on a aussi des besoins là-dessus puisque on les accompagne pas mal. Ils ont des problématiques. Alors, quand je dis grand groupe, c'est pas que le CAC 40, hein, c'est déjà des boîtes de 800, 1000, 2000 personnes. Il y a quand même des grosses problématiques qui permettent d'être honorées par ce côté terrain de jeu dont je parlais tout à l'heure et de libérer de l'espace dans les plannings des DSI. Et du coup, ces technos permettent vraiment de s'adapter très, très bien à peu près à tous les contextes. Donc ça, c'est aussi un des points clés. C'est que comme l'appropriation est rapide, ça permet de pouvoir de s'adapter beaucoup mieux. Mais ce que je te propose, c'est, parce que je vois le temps qui passe, de rentrer direct sur ce qu'on a fait pour OREM sur la certification MAS.
Oui, complètement. Donc, nous, on est certifié MAS depuis 2004. Le MAS, c'est quoi ? C'est un référentiel. MAS, c'est le nom exact, c'est Manuel d'amélioration de la sécurité des entreprises. C'est un truc qui a émergé, un référentiel qualité-sécurité qui a émergé après les accidents d'AZF à Toulouse, l'explosion sur les sites chimiques. Voilà. Et donc, toute l'industrie chimique de France s'est mutualisée pour créer un référentiel pour éviter que les prestataires extérieurs qui interviennent sur leur site puissent créer des dangers. Voilà. Donc, c'est vraiment le référentiel MAS, c'est un référentiel hyper opérationnel. Si je fais le versus avec, par exemple, des référentiels ISO, que je ne critique pas, mais qui sont plutôt très documentaires, très procédures écrites. Le référentiel MAS vise vraiment à l'amélioration des conditions d'intervention et donc des conditions de travail, des conditions de sécurité de l'ensemble des intervenants de l'entreprise, de nos salariés, nos intérimaires, jusqu'à nos sous-traitants qui peuvent co-intervenir avec nous sur site. Dans le cadre de ce référentiel, forcément, on a l'obligation de nous de mesurer et de tenir des indicateurs opérationnels de comment est-ce qu'on anime et comment est-ce qu'on gère la sécurité sur nos chantiers. Et donc, notamment, il y a tout un volet d'animation de la sécurité qui est hyper important pour renouveler tous les 3 ans notre certification MAS, donc de démontrer ce qu'on a pu faire. Donc, on a nos équipes terrain, en cadrant chantier, du chef d'équipe jusqu'au chargé d'affaires, font des causeries, des audits, etc., etc. Ils sont censés, grâce à ça, faire de la remontée d'informations, de dysfonctionnements qu'après on prend dans le système pour faire de l'amélioration continue, assez classique. On analyse, on met en place des plans d'action, et on avance comme ça. Aujourd'hui, donc nous, ce qu'on a fait via une application, donc No Code, sur laquelle effectivement Luc et son équipe de Toosmart nous ont accompagnés. On a développé donc une petite application, je dis petite parce que petite qui deviendra grande, parce qu'on a déjà ajouté pas mal de fonctionnalités dedans. Et quand je dis petite, parce qu'au départ, ça semblait effectivement être un peu monosujet, puisqu'on était très axé sécurité, pour dématérialiser tous ces formulaires de causerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le terrain, nous, pour vous simuler, on a un encadrant chantier qui va animer un quart d'heure sécurité, qui a sa fiche papier A4. Donc voilà, et il va lire son petit texte, etc., animer sur sa causerie, faire signer à tous les participants pour qu'on ait la trace de ce qu'on fait en termes de formation pour nos équipes. Ce formulaire, il était ensuite, il revenait tant bien que mal à l'agence. Il était visé par le responsable de sang pour qu'il y ait un petit gris dessus. Voilà. Ensuite, quand notre responsable QHSE passait sur le site, on a 5 agences sur la région, elle récupérait le formulaire et elle le saisissait globalement dans un outil. Donc, c'est environ 1000 formulaires par an, fiches de progrès, audit, causerie, qui faisaient tout ce petit circuit-là, voilà, pour faire simple. C'était 8 fichiers Excel, parce qu'on saisissait les données dans différents endroits, et c'était environ 5000 saisies unitaires, à peu près, dans des lignes ou dans des cases. Voilà. Elle y passait à peu près 4 jours, quoi, en traitement complet, on était facilement à 4 jours par mois, le temps sans parler des relances pour récupérer les papiers, voilà, ou les papiers perdus qu'il fallait éventuellement refaire, etc. etc. Donc, voilà. Et donc aujourd'hui, on a un système, donc, ils ont une application sur smartphone qui leur permet aujourd'hui, ils animent la causerie en live, les collaborateurs signent en automatique dessus, et en automatique, la causerie remonte dans la boîte mail du responsable d'agence, de la responsable QHSE. Et s'il y a une situation dangereuse identifiée, ça arrive même dans ma boîte mail à moi. Voilà. Donc on a tout simplement éradiqué tout ça, en fait, voilà, et c'est en instantané sur effectivement toutes les thématiques que je vous ai évoquées. Grâce à ça aussi, effectivement, ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté de l'instantanéité des sujets. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un salarié qui identifie une situation dangereuse ou qui a une voie de progrès à nous signaler, il le fait via son smartphone en automatique et ça arrive effectivement dans les boîtes mail des gens qui étaient censés récupérer ces informations pour pouvoir les traiter. Une situation dangereuse, quand on la traite, quand le temps de faire le petit circuit avec sa voiture, des fois une situation dangereuse était identifiée par la responsable QHSE 60 jours, 30 jours plus tard. Quand on la traite, elle a un peu moins d'impact forcément parce que le gars ne se souvient plus trop pourquoi est-ce qu'il d'ailleurs c'était dangereux ou exactement pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, parce que dans l'intervalle, il a été sur 5 autres chantiers différents. Ce qu'on a aussi vu en nous en bénéfice là-dessus, ce qui est assez génial, c'est le fait qu'on a bien évidemment plus de remontées terrain. Parce qu'avant, aller chercher un papier au secrétariat de l'agence quand on était loin de l'agence, on l'avait perdu dans son camion de chantier. Aujourd'hui, on a à peu près 20% de remontées terrain en plus, c'est-à-dire donc vraiment, et qui sont des remontées terrain pertinentes, parce que les salariés peuvent via l'appli prendre en direct une petite photo de la situation. Et donc, ils ne sont pas obligés de mettre beaucoup de blabla en fait. Ils mettent 3 mots, problème d'échelle, pouf. Et ou d'échafaudage, ils prennent la photo et ils envoient en direct. Après, charge à nous éventuellement de compléter et libeller, mais au moins, on a l'information qui remonte tout de suite. Et puis, pour faire la transition, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où on est parti vraiment sur le besoin du MAS au départ, et grâce à Luc et son équipe, on a repris un peu de hauteur sur tous nos process, donc avec une méthodologie un peu tu en parleras peut-être d'ailleurs après, mais de process thinking, et pour aller dire, aujourd'hui, certainement des petits processus comme ça qui étaient très chronophages, on doit en avoir en fait, des dizaines chez nous en interne. Et quand on voit la facilité de développement, et comme on avait une application dans laquelle déjà, il y avait déjà tous les collaborateurs de REM, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait facilement, sans lourdeur supplémentaire, dématérialiser. Et donc, on gère des heures, des bons d'heures, donc sur tout un tas de process RH, et pareil, des bons d'heures qui sont collectés par mail ou papier pour certains collaborateurs. Parce que nous, tous les mois, on reconstitue de la paye, reconstitue des heures effectuées pour pouvoir réaliser le bulletin de salaire du collaborateur et lui attribuer ses déplacements, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc aujourd'hui, dans notre application qui s'appelle Toi, donc c'est tout Smart et OREM, et OREM Astre. Aujourd'hui, on a le module QHSE et on a le module RH, mais qui va pour le coup, on a prévu d'y intégrer la dématérialisation des demandes de congés, des demandes d'acompte, tout ce qu'aujourd'hui qui était fait par les assistantes en saisie et avec ce qu'on n'y avait pas dans la V1, qui est pour le coup, maintenant ça communique avec notre RP C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs saisissent ces temps et en automatique, ça passe dans l'ERP. Donc aujourd'hui, on n'a plus du tout. Alors là, on n'est plus sur. On n'a pas chiffré encore, on n'est pas à 4000 saisies par an qu'on évite. Là, c'est. Je pense que là, il va y avoir au moins, je ne sais pas, 8 zéros. 8 zéros dans le chiffre, un minimum. on fera le calcul parce que c'est quand même bien aussi d'identifier le bénéfice en termes de gain de temps, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui saisit, c'est forcément du temps. Et je fais le lien sur la partie aussi le bénéfice de tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est que ça permet réellement de remettre aussi les acteurs sur des tâches à valeur ajoutée. Aujourd'hui, notre responsable QHSE, aujourd'hui, elle fait de l'analyse de données. C'est plus une assistante de saisie. Et on a la récupéré 4 jours par mois pour faire de l'amélioration continue, de l'analyse d'événements et d'incidents. Voilà. Donc ça, c'est assez magique.
Pour rebondir dans le chat, comment garantir cette urbanisation par rapport à la multiplication des applis. Alors, ça dépend en effet comment c'est honoré. Slimane parlait de SNCF sur le process en fait qui est en place. Ce dont parlait Bénédicte tout à l'heure, c'est on a créé un process thinking smart qui permet en fait de créer le schéma, la cartographie des systèmes ou le process d'une fonction spécifique. Et dans le cas pour le coup des multi-applications, il suffit entre guillemets de créer cette cartographie et à chaque fois qu'il y a une nouvelle appli, de venir l'intégrer pour voir que 1, il n'y a pas de doublons, 2, elles sont bien interconnectées et voir s'il n'y a pas de trou dans la raquette par rapport à ces sujets. Merci beaucoup pour ce témoignage.
J'ai un micro sur la question, l'intérêt de la cartographie aussi, c'est aussi des fois nous, ça nous a permis de revaloriser notre RP. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses où on s'est dit, finalement, nous, on était presque à se demander s'il ne fallait pas qu'on change l'outil dans notre réflexion de mutation digitale. Et c'est aussi ça qui est intéressant, je crois que tu l'as dit à un moment donné, mais tout ça est quand même complémentaire. Tous les outils existants sur le marché sont à un moment donné un peu quand même complémentaires. Et aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est ça. Quand on reprend de la hauteur, on se dit, tiens, ce processus-là, on ne l'avait pas identifié comme étant potentiellement automatisable, voilà, ou pour gagner du temps. Et en même temps, on arrive aussi à revaloriser, à redonner de la valeur à des outils internes, peut-être déjà existants.
Ouais, ça fait exactement le lien du coup avec l'exemple d'après sur le côté maintenance.
La process maintenance.
Ouais, ou le côté process maintenance. Là, c'est le cas d'une belle PME aussi qui, pour le coup, a une GMAO. Évidemment, la GMO, une fois en place, elle ne répond pas toujours pile poil, il manque toujours quelque chose. Et au final, elle était très peu utilisée parce qu'elle n'était pas accessible et ergonomique. Un des points dont tu as cité tout à l'heure, c'est que nos codes locaux nous permet facilement de réintégrer en fait, dans le process de l'entreprise tous les frontliners, tous les collaborateurs qui sont sur le terrain, qui n'ont pas d'ordinateur et qui du coup sortent du process de la boîte. Là, pour le coup, avec ces applications, ça nous permet de les relier dans les process de l'entreprise. Et ça, c'est vachement important. Du coup, le cas là sur le côté GMAO, elle était peu utilisée donc pour les problèmes ergo dont je parlais. Et là, on est vraiment dans le côté industrialisation sur. Alors là, il y a plusieurs sujets. Celui-là, c'est sur le forage. On avait d'autres sur le côté pharmaceutique pour développement de principes actifs avec 6 grosses usines en Europe, où en fait, on a mis des codes barres sur l'ensemble des machines de l'usine de production. Et à chaque fois qu'il y a une problématique, du coup, ils peuvent juste scanner le flash code, ça leur ouvre directement la machine. Et ils ont là la possibilité de la consigner, de déclarer un incident, de voir la documentation, d'accéder à différents sujets. Puisque derrière, la puissance de l'appli qu'on a créée permet en fait de se connecter d'un côté à SAP, de l'autre côté à la GMAO, et d'avoir du coup une congruence en fait des informations. C'est-à-dire qu'on interconnecte les sujets entre eux de façon à pouvoir converger la donnée sur les différents sujets. Donc, on enlève un peu, là, sur l'exemple que vous avez à l'écran, c'était un petit peu le même cas que pour ORM, où il y avait du tout papier pour les interventions, avec de la double saisie, avec les validations, avec tout ce qui est relevé de données. Là, avec l'application, on peut directement faire les relevés, prendre des photos, arriver directement à faire des modifications de données si nécessaire. Donc, voilà, c'est les points importants. Bon, après, il y a beaucoup d'autres cas qui peuvent être abordés, mais le timing est un peu compté. Donc, on aura l'occasion d'en discuter avec chacun.
Il y a peut-être un point quand même qui me semble important à préciser, qui est aussi parce qu'on a parlé de la convergence des données, on a récupéré les données et les faire converger entre elles. Et après, il y a l'exploitation des données, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous, via notamment des certifications en masse, on a besoin de sortir des indicateurs, des graphiques dans tous les sens, etc. Aujourd'hui, nous, un manager chez nous, c'est en instantané, sans passer par le service QHSE, qu'aujourd'hui, qui est en avance sur ses objectifs individuels sécurité, qui est en retard, quels sont les bons d'heures qui sont collectés ou pas, etc. etc. Donc, ce qui permet aujourd'hui, et sur de l'analyse de données, alors ça reste simple et sommaire, mais bon, après, via des imports Excel, nous, on arrive effectivement aujourd'hui à sortir des beaux graphiques plus complexes peut-être que ce que l'appli peut proposer. Mais en traitement de données premier, il y a aussi vraiment l'exploitation de la donnée quand même. Aussi, ce qui permet,
et puis, il y a le fait aussi d'arriver à contrôler, d'apporter de la qualité de la donnée, puisque on évite d'avoir tous les audits et toutes les causeries la semaine avant le contrôle, mais de les avoir étalés un petit peu tout au long de l'année pour pouvoir challenger et manager tous ces sujets. Donc, c'est les points clés. Voilà les cas concrets qu'on voulait vous partager pour vous projeter sur des sujets réels qui sont honorés par ces technos-là. J'espère que ça a permis de répondre au plus de questions que vous aviez sur les capacités de ces outils et votre dispo à répondre à vos questions.